affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. On le sait, la mémoire humaine est par nature sélective. À l'instar d'un tamis, elle trie, retient certains faits et en oublie d'autres. C'est aussi le cas de la mémoire collective qui sélectionne certains individus pour la postérité et en rejette d'autres dans l'oubli. Bien que naturel, ce processus impitoyable est parfois teinté d'injustice. Certaines hautes figures se retrouvent oubliées alors qu'elles mériteraient d'être connues. Tel est le triste sort longtemps réservé à Adrien Loire, neveu de Pasteur, quasiment inconnu du grand public et même des amateurs d'histoire scientifique, alors qu'il a joué un rôle éminent lors de l'épopée pasteurienne et dans la diffusion de la science pasteurienne sur 5 continents. C'est un apport qui méritait d'être salué et qui désormais le sera, grâce au récent ouvrage qui lui est consacré par Annick Perrault et Maxime Schwartz. Maxime Schwartz est membre correspondant de l'Académie des sciences et ancien directeur général de l'Institut Pasteur. Leur livre a été écrit pour tirer Adrien Loire de l'oubli et nous avons la joie de recevoir Maxime Schwartz pour qu'il nous présente la vie aventureuse d'Adrien Loire, savant et globe-trotteur. Monsieur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour monsieur.
Vous avez titré monsieur votre livre « Le neveu de Pasteur ». Tout commence donc par là, par ses liens familiaux. Quels étaient-ils exactement ?
En fait, Adrien Loire était le neveu de l'épouse de Pasteur, mais donc il était le neveu de Pasteur et il a été de façon très précoce lié à Louis Pasteur, en particulier lorsque Pasteur passait ses étés dans sa maison d'Arbois et où la famille Loire le rejoignait. Et donc Pasteur a connu son neveu de très près depuis sa prime enfance jusqu'au moment où Loire va commencer à travailler avec lui.
Alors, tout commence par une forme d'embauche liée à une forme d'infirmité de Pasteur sur un moment de sa vie. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un assistant pour l'assister dans tous les aspects, dans tous ses aspects professionnels. Donc, Adrien Loire, en quelque sorte, est une sorte de factotum initialement.
Oui, peu de gens le savent, mais en fait, Pasteur a été frappé par ce qu'on appellerait aujourd'hui un AVC à l'âge de 46 ans, et à la suite de cet AVC, il était en partie paralysé du côté gauche, donc il n'était plus capable de faire ses expériences lui-même, il avait absolument besoin de quelqu'un pour l'aider. Alors immédiatement après cet AVC, il avait un assistant auprès de lui, mais qui plus tard est parti, et Pasteur a bien compris qu'il lui fallait quelqu'un de très proche en qui il pouvait avoir confiance pour l'aider, et c'est ainsi qu'il a décidé de recruter son neveu Adrien Loire quand il a atteint l'âge de 20 ans.
Donc Adrien devient cette aide quotidienne, le bras de Pasteur. Quels sont les premiers travaux auxquels il est associé ?
Bien, c'est vrai, donc Adrien était le bras de Pasteur, son accessoire en quelque sorte. Et les tout premiers travaux avant d'être recruté, c'est intéressant, lorsqu'il est allé passer des vacances à Arbois, c'est le moment où Pasteur a fait des expériences sur les vignes, la vigne qu'il avait à Arbois, et où il s'agissait de montrer que si le jus de raisin fermentait, c'était parce que des levures de l'environnement se déposaient sur les grappes. Et donc, il y a eu une expérience de fait où il entourait les grappes de raisin quand elles n'étaient pas mûres dans du coton. Et ensuite, il montrait que le jus fait à partir de ces grappes ne fermentait pas. Et il a demandé à Adrien, déjà à l'époque, de l'aider dans cette expérience. C'était la première expérience faite en commun par Adrien et Pasteur, disons. Mais après son recrutement, très peu de temps après son recrutement, Adrien a participé à des travaux sur une maladie dont on parle assez peu, qui était le rouget des porcs, une maladie qui faisait des ravages dans les élevages de porcs. Et Pasteur avait été appelé dans le Vaucluse par un vétérinaire qui souhaitait beaucoup que Pasteur puisse développer un vaccin contre ce rouget du porc. À ce moment-là, Pasteur avait déjà fait des travaux sur le charbon, en particulier le choléra des poules, où il avait pu mettre au point les premiers vaccins. Adrien est parti avec Pasteur et aussi avec un assistant de Pasteur, qui lui était un ancien éco-normal, Louis Tullier, et tous trois se sont attaqués à ce problème de la maladie, le rouget du porc, et vont arriver effectivement à développer un vaccin. Mais dans ces premiers travaux, on voit que Loire était non seulement l'assistant de Pasteur, le bras de Pasteur, mais dans les expériences, mais il était aussi en quelque sorte son valet, parce que Pasteur n'était plus capable de s'habiller tout seul, il ne pouvait plus faire un nœud de cravate, lasser ses chaussures, etc. Et donc Loire, à la fois, jouait un rôle de valet et jouait un rôle d'assistant scientifique.
Alors, après le passage par le Vaucluse et Bollène, exactement, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Il sera associé également aux fameux travaux qui valent pour une grande part la célébrité de Pasteur sur la rage. Si je me souviens bien, il fait même partie des deux personnes qui se feront inoculer le vaccin, alors même que le processus n'est pas parfaitement abouti.
Oui, avant ça, bon, ce qu'on retient le plus souvent des travaux sur la rage, ça a été la fameuse vaccination de Joseph Meister, ça c'était en juillet 1885, donc ce petit Alsacien qui avait été gravement mordu par un chien enragé, qui avait été amené par sa mère à Pasteur, un moment où Pasteur n'avait pas encore vraiment tout à fait terminé ses travaux sur les chiens pour montrer l'efficacité de son vaccin. Et Loire était donc déjà sur place, il est arrivé en 82 dans le laboratoire Pasteur, donc ça c'était en 85, et Loire s'est beaucoup occupé du petit Joseph Meister, qui logeait en fait dans les locaux pratiquement du laboratoire de Pasteur. Donc c'est un peu après, c'est l'année suivante, 86, alors qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui venaient se faire vacciner au laboratoire de Pasteur, qu'il se trouve que le médecin qui faisait les injections, qui s'appelait Granchet, s'est malencontreusement piqué avec le vaccin, et le vaccin en fait suppose qu'on commence par injecter un vaccin correspondant à du virus totalement atténué et progressivement de moins en moins atténué. Et donc, il se trouve que le Joseph Granchet s'est inoculé du vaccin qui était pratiquement pas atténué, donc du virus virulent. Et Pasteur a dit, mais il faut absolument que vous vacciniez. Il faut absolument que vous vous vacciniez, et d'ailleurs, moi aussi, je veux me vacciner. Et tout le monde, Granchet a dit, il n'en est pas question, vous n'êtes pas exposé au virus, pas de raison de vous vacciner. Bon. Et alors, à ce moment-là, Loire a dit lui-même, écoutez, qu'à me vacciner moi, et puis un autre jeune assistant qui était là. Et donc, à la fois, Granchet, Loire et l'autre ont été vaccinés avec ce vaccin, alors que bon, il y avait quand même une incertitude sur son innocuité à ce moment-là. Donc, en quelque sorte, Loire a un peu servi de cobaye dans cette expérience, dans ses travaux sur la rage.
Voilà, un cobaye volontaire, et je trouve que l'anecdote montre bien la confiance et les liens très très forts noués entre Adrien Loire et celui qu'il appellera jusqu'à la fin de sa vie son maître.
Oui, Loire vouait une profonde admiration à Pasteur. Il l'aimait beaucoup. En même temps, il le craignait parce que bon, c'était un maître extrêmement sévère.
On a le sentiment aussi qu'Adrien Loire se retrouve là donc par des liens familiaux. On pourrait dire aujourd'hui ou penser à tort qu'il n'est qu'un pistonnet. Ce que penseront d'ailleurs certains de ses collègues de l'Institut Pasteur, beaucoup plus diplômés que lui, car à ce moment-là, Loire n'est toujours pas médecin, mais c'est quelqu'un qui sait saisir sa chance. Est-ce que, alors on parlera plus tard de son aventure australienne, mais sa première chance, n'est-ce pas son, son voyage, j'y pense parce que c'est lié à la rage, en Russie, et plus exactement à Saint-Pétersbourg.
Oui, ce voyage à Saint-Pétersbourg a été la première occasion pour Loire de s'échapper un petit peu de ce laboratoire où vraiment il ne pouvait que travailler, aucune occasion ne lui était donnée de se distraire ou quoi que ce soit. Il était tout le temps sous l'œil, soit de Pasteur, suivi de très près par sa famille, etc. Il fallait travailler, travailler, travailler. Et là, eh bien, c'était en 86, il se trouve qu'en mars 86 sont arrivés à l'Institut Pasteur, enfin c'était pas l'Institut Pasteur, dans le laboratoire de l'École Normale à l'époque, des 19 paysans russes qui s'étaient fait très gravement mordre par un loup enragé. Et donc Pasteur a entrepris de les vacciner, il y en a trois qui sont malheureusement morts très vite après leur arrivée, mais les autres n'ont pas attrapé la rage et donc ont été sauvés par le vaccin Pasteur. Alors à la suite de cela, eh bien en fait, le prince d'Oldenbourg, qui était un cousin du tsar, est venu à Pasteur pour remercier Louis Pasteur, lui apporter d'ailleurs un beau chèque pour la création de l'Institut Pasteur, et puis il est reparti avec un lapin enragé, parce que c'était avec les lapins enragés qu'on fabriquait le vaccin. Et il a commencé à vouloir mettre au point un laboratoire de vaccination contre la rage à Saint-Pétersbourg pour éviter d'avoir à envoyer des Russes mordus jusqu'à Paris, ce qui était quand même long et risqué, parce qu'il fallait faire la vaccination très vite après la morsure. Donc il a commencé à mettre ça en place, mais avant de commencer, il s'est dit qu'il lui fallait l'œil de quelqu'un qui avait l'habitude de cela. Il a demandé à Pasteur de lui envoyer quelqu'un, et Pasteur a envoyé Adrien Loire à Saint-Pétersbourg, où il a en fait beaucoup contribué au fait que le prince d'Oldenbourg a vraiment mis en place un véritable laboratoire antirabique. Et c'est d'ailleurs ce laboratoire antirabique qui a été un peu l'origine de ce qui allait être plus tard l'Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg, qui existe toujours aujourd'hui. Mais alors, pendant ce séjour, qui n'a duré qu'une quinzaine de jours, pour la première fois, la Loire a un peu pu vivre la belle vie. Il était invité par les princes locaux sur les bords de la Volga, où il faisait la fête le soir, etc. Donc, il a à la fois contribué au démarrage finalement de la présence pasteurienne à Saint-Pétersbourg et en Russie plus généralement, mais en même temps, il a pour la première fois pris un peu de bon temps.
Et c'est le début d'un processus d'émancipation, et on s'en rend compte qu'à ce moment-là, cette personne qui est, voilà, comme je l'avais dit, une sorte de factotum totalement sous la coupe du maître, va pouvoir s'émanciper et montrer ce dont il est capable. Mais Pasteur étant quelqu'un d'intelligent, on a le sentiment qu'il a saisi le potentiel, en réalité, d'Adrien Loire.
Oui, il a commencé à saisir à ce moment-là, mais il a encore fallu quelques années, et notamment l'aventure australienne dont on va parler, je suppose, maintenant.
Oui, c'est l'étape fondatrice cette fois. On n'est plus dans les prolégomènes, mais que cela se passe comme souvent dans la vie par des hasards. En l'occurrence, la demande vient de l'Australie, qui d'ailleurs à l'époque, précisons-le, n'est pas encore l'Australie, ce n'est pas encore un pays, c'est un agrégat de 5 colonies. Et donc, oui, que souhaite l'une d'entre elles lorsqu'il s'adresse à l'Institut Pasteur?
Ce sont donc des provinces, et notamment la Nouvelle-Galles du Sud, qui lance un appel d'offres, disons, pour quelqu'un qui serait capable d'éliminer les lapins, en fait, pas seulement de cette province, mais du continent, parce que les lapins qui ont été importés par quelqu'un qui venait d'Angleterre quelques années plus tôt, s'étaient développés d'une façon catastrophique, et au point que ça ruinait en grande partie les éleveurs, parce que les lapins faisaient des terriers partout, mangeaient le fourrage, et donc l'élevage des moutons, qui est très important là-bas, en subissait de graves dégâts. Donc il s'agissait de trouver un moyen d'éliminer les lapins. Et Pasteur a eu connaissance de cet appel qui est paru dans un journal en France, et il s'est dit qu'on devait pouvoir utiliser un microbe qu'il connaissait bien, c'était le microbe du choléra des poules, qui s'attaquait aux poules mais aussi aux lapins, mais pas à beaucoup d'autres espèces, et qu'il suffirait de déposer de ce microbe devant les terriers des lapins pour que se déclenche une épidémie et qu'il soit éliminé. Et il se trouve que, il a répondu de cette façon déjà aux Australiens, mais il se trouve que Madame Pommery, qui possède les vignobles bien connus en Champagne, avait de gros problèmes avec les lapins dans sa propriété qui détruisaient ses caves. Et donc, quand elle a vu que Pasteur faisait cette réponse à la Nouvelle-Galles du Sud, elle lui a proposé de venir faire l'expérience dans sa propriété. Et donc, Pasteur a envoyé Adrien Loire chez Madame Pommery avec un peu de microbe. Adrien Loire a répandu ce microbe sur la luzerne que mangeaient les lapins, et quelques jours plus tard, tous les lapins de la propriété étaient morts. Donc Pasteur s'est dit, si ça marche chez Madame Pommery, ça va marcher en Australie, et il envoie Adrien Loire en Australie, voyage qui allait lui prendre 2 mois. Et malheureusement, quand Loire va arriver en Australie, il va constater que les autorités ont changé d'avis et ne veulent plus le voir arriver avec son microbe. Et ça va être...
Alors là...
Oui.
Oui, là, il y a un passage qui est quand même... Le récit de l'aventure australienne est absolument fascinant, car on voit se développer sur place, notamment, effectivement, un revirement des autorités australiennes, des tracasseries administratives de tous ordres, mais aussi une véritable guerre économique dont d'autres acteurs sont les Allemands et l'éternel rival Koch.
Oui, donc quand il est arrivé sur place, Adrien Loire s'est heurté finalement à d'énormes difficultés pour pouvoir faire ses expériences, démontrer l'efficacité de son microbe. Et les raisons pour lesquelles on s'est opposé, il y avait des raisons économiques, il y avait ce qu'on appelle les squatteurs, c'est-à-dire les premiers qui s'étaient emparés des terres inoccupées à l'époque, en fait recevaient des subsides du gouvernement pour avoir à lutter contre les lapins. Et alors, finalement, ils n'avaient pas très envie de perdre ces subsides, donc ça les ennuyait beaucoup qu'on puisse éventuellement trouver une méthode efficace pour se débarrasser des lapins. Il y avait aussi les gens qui étaient impliqués dans la lutte contre les lapins et qui ne voulaient pas voir donc, ces lapins disparaître. Et puis, c'est vrai, il y avait aussi, disons que les autorités australiennes se sont dit, finalement, si cette méthode, elle marche, on aimerait bien... le faire nous-mêmes sans avoir à payer, parce que, bien entendu, l'appel d'offres était assorti d'un prix très important. Donc Pasteur espérait récolter le prix correspondant à l'utilisation de cette technique. Et donc, les autorités australiennes, de Nouvelle-Galles du Sud plus exactement, se sont arrangées pour faire appel à Koch, qui était le grand rival de Pasteur, en lui demandant s'il ne pourrait pas lui fournir ce microbe de façon à ce que ils puissent eux-mêmes faire l'expérience. Alors, ils avaient sur place un médecin qui prétendait pouvoir s'occuper de tout ça, qui était aussi vraiment opposé à Loire et surtout à Pasteur. Et donc ce microbe a été envoyé effectivement par Koch, mais il se trouve que le médecin qui a commencé à faire les expériences ne devait pas être très bon. En tout cas, les cultures ont été contaminées et ces expériences n'ont pas marché. Donc finalement... les autorités ont mis à disposition d'Adrien Loire un laboratoire qui était situé dans un petit îlot de la rade de Sydney. Ça s'appelait Rhode Island, R-O-2-D, c'est pas comme Rhode Island aux États-Unis. Et donc, Loire a pu s'installer dans cet îlot, où il a pu commencer des expériences avec le microbe, en montrant qu'effectivement il tuait les lapins et qu'il ne tuait pas les vaches, les moutons, etc. Mais les autorités australiennes ne l'ont jamais laissé finalement faire des expériences en grand. Alors en fait, il faut bien voir que Pasteur avait avait des espoirs un peu excessifs en pensant que ce qui marchait dans la petite propriété d'Anne Pommery allait pouvoir marcher dans l'immense continent australien. Et puis d'autre part, en fait, le microbe en question n'était pas assez contagieux, donc ça n'aurait jamais fait une épidémie pour éliminer les lapins. Enfin, à l'époque, on ne s'était pas vraiment rendu compte de cela. Le résultat est que Loire n'a jamais pu mettre en place vraiment cette méthode d'élimination des lapins en Australie avec le choléra des poules. D'ailleurs, par la suite, les Australiens ont essayé d'autres microbes, y compris le fameux virus de la myxomatose, qui a permis de réduire la population de lapins pendant un certain temps, mais ceux-ci se sont développés à nouveau par la suite. Mais heureusement, Loire ne s'en est pas arrêté là et a pu apporter des avancées considérables dans la science vétérinaire en Australie.
Oui, c'est là qu'on voit que c'est une sorte d'entrepreneur, cet Adrien Loire. C'est-à-dire, au-delà de ses qualités de savant, on perçoit dans l'aventure australienne une extraordinaire énergie et capacité à rebondir, à sentir qu'un projet qui échoue ou qui s'enlise doit être immédiatement remplacé par un autre. Et il fait feu de tout bois, en quelque sorte.
Oui, il va avoir deux magnifiques succès en Australie. Le premier va concerner la maladie du charbon et l'autre, la péripneumonie contagieuse bovine. Dans le premier cas, il se trouve que quand il est arrivé, on constatait qu'aussi bien les moutons que les vaches étaient souvent affectés par une maladie qu'on appelle le Cumberland Disease. On ne savait pas trop ce que c'était. Et Loire a pu démontrer qu'il s'agissait en fait du charbon, donc une maladie bien connue en Europe. Et après avoir montré ça, il s'est dit, bon, ben, si le Cumberland Disease, c'est le charbon, on va pouvoir utiliser le vaccin mis au point par Pasteur contre cette maladie. Alors Pasteur avait pu démontrer en France l'efficacité de ce vaccin dans une expérience célèbre faite à Pouilly-le-Fort en 1881, où on avait mis à sa disposition 50 moutons. Il avait pu vacciner la moitié, 25 moutons, l'autre moitié n'était pas vaccinée. Ensuite, quelques semaines plus tard, on a injecté du microbe virulent aux 50 moutons. Les 25 vaccinés ont survécu et les 25 non vaccinés sont morts, ce qui est un résultat tout à fait extraordinaire pour une expérience de biologie. Et grâce à ça, il a pu convaincre donc les populations de l'efficacité de son vaccin. Eh bien, Loire va être amené à faire la même chose en Australie, on fait une expérience similaire, qui va convaincre les éleveurs donc, que ce vaccin est valable, et ça va être le démarrage de la vaccination contre le charbon en Australie, qui va sauver des millions d'animaux par la suite. Et il a fait une autre chose extraordinaire sur une maladie qui s'appelle la péripneumonie contagieuse bovine. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette maladie a commencé un peu comme aujourd'hui l'épidémie de coronavirus. C'était une vache unique qui arrivait d'Angleterre, qui, sans qu'on le sache, parce qu'elle était, on dirait, asymptomatique aujourd'hui, avait cette maladie qui tuait rapidement les animaux, l'a communiquée aux animaux de son entourage, et finalement, la maladie s'est répandue sur tout le continent et a causé des catastrophes dans tous les élevages bovins. Eh bien, Loire a été capable de mettre au point encore un système de vaccination qui a permis de protéger les bovins australiens. Et donc, il a encore une fois apporté énormément à la science vétérinaire en Australie.
Dans cette aventure australienne, il y a aussi un épisode plus léger et plaisant, sa rencontre avec une actrice et chanteuse bien connue. Épisode qui n'est peut-être pas si anecdotique, car il révèle une part de la personnalité d'Adrien Loire. Pouvez-vous nous raconter cet épisode et nous révéler l'actrice dont il s'agissait.
Oui, Sarah Bernhardt était sans doute l'actrice la plus connue au monde à l'époque. Beaucoup de grands hommes, le prince de Galles, etc., beaucoup d'autres étaient amoureux d'elle. Et il se trouve qu'elle est arrivée en Australie pour faire une tournée. Et quand elle arrive, eh bien, catastrophe, elle vient avec deux chiens qu'elle aimait beaucoup. Et les Australiens ne voulaient pas la voir débarquer avec ses chiens parce qu'ils voulaient se protéger contre la rage. Donc les chiens devaient être mis en quarantaine dans une île relativement loin de Sydney. La Sarah Bernhardt menace de repartir si elle ne peut pas garder ses chiens. Donc c'est une véritable catastrophe. Et Adrien Loire, qui à la fois était donc compatriote de Sarah Bernhardt et en même temps s'y connaissait en rage, s'est débrouillé pour résoudre le problème. Il a pu convaincre les autorités décider que son petit îlot de Rhode Island, qui était dans la rade de Sydney, pourrait servir de quarantaine annexe. Et donc, on pourrait y mettre les chiens de Sarah Bernhardt. C'est ce qui a été fait. Et lorsque Sarah Bernhardt a appris cela, elle était extrêmement reconnaissante à Adrien Loire. Et elle était tellement reconnaissante qu'elle lui a dit, écoutez, venez dîner avec moi après chacun de mes spectacles dans mon hôtel. Bon, Adrien a été, semble-t-il, assez stupéfait parce que s'il dînait avec elle, à l'heure où il aurait fini son dîner, il ne pouvait plus rentrer dans Rhode Island, donc ça veut dire qu'il passait la nuit là. Et donc, pendant toute la période où Sarah Bernhardt était à Sydney, eh bien, Adrien Noir a passé les nuits dans son appartement. Bon, il n'a pas donné de détails sur ce qui se passait, mais on pouvait l'imaginer. On peut aussi, il semble aussi que Sarah Bernhardt ait annulé sa dernière, il devait faire une tournée d'une semaine dans une autre ville. Elle a annulé cette tournée pour pouvoir passer la semaine avec Adrien Noir sur son petit îlot. Donc c'est une aventure donc, qui est peu connue avec une comédienne extrêmement célèbre à l'époque.
Alors, Sarah Bernhardt, me dit aussi, on imagine que ce n'est pas que pour cette raison, l'incite à rentrer en France, non pas pour le retrouver, mais en l'incitant à prendre femme parmi celles de son pays et non pas en Australie, ce qui aurait une importance majeure, puisque à l'issue de ses aventures et de la lutte pour sauver les bovins, il décide effectivement de rentrer en France.
Oui, il n'avait pas encore tout à fait fini ses travaux, mais il rentre en France. En fait, il y a une raison malgré tout majeure, c'est que entre-temps, sur Rhode Island, il avait créé ce qu'il a appelé l'Institut Pasteur d'Australie. Donc il a vraiment créé un Institut Pasteur. Bon, celui-là n'a pas duré beaucoup d'années, mais enfin, il existait. Mais il aurait bien voulu être le directeur de cet Institut Pasteur d'Australie. Et les autorités pasteuriennes, en l'occurrence, c'était Duclos qui avait succédé à Pasteur, parce que Pasteur est mort en 95. Enfin, Pasteur était encore vivant, mais c'est surtout Duclos qui dirigeait les choses, parce que Pasteur était très fatigué.
Et Duclos n'aimait pas beaucoup Loire.
Je ne sais pas s'il ne l'aimait pas beaucoup, mais enfin, il n'avait pas vraiment confiance en lui. Il faut voir que Duclos, comme les autres de l'entourage de Pasteur, regardait vraiment Adrien Noir de haut. Pour eux, c'était toujours l'accessoire de Pasteur, le petit technicien. Il n'arrivait pas à vraiment le prendre en considération. À l'époque, il n'avait encore aucun diplôme. Donc, de voir un jeune sans diplôme prendre la direction de ce qui aurait été le premier Institut Pasteur hors de France, c'était quand même un peu risqué. Donc, il a compris qu'il fallait qu'il ait un diplôme. Alors, entre-temps, auparavant, il avait déjà commencé des études en médecine, mais il est rentré en France pour terminer ses études de médecine et donc être docteur en médecine, ce qui pouvait lui donner un certain poids pour devenir directeur de l'Institut Pasteur d'Australie. Et puis, en même temps, effectivement, il avait envisagé de se marier avec quelqu'un en Australie, et puis Sarah Bernhardt l'a convaincu que son avenir c'était en France, qu'il fallait se marier en France, donc, et il a revu d'ailleurs très brièvement Sarah Bernhardt en France lors de son retour. Et donc lors de ce retour, il a passé sa thèse, quelques jours plus tard il s'est marié, sa femme avait choisi une femme pour lui, il s'est marié et il est reparti presque aussitôt avec sa femme en Australie, où il n'est resté que quelques mois, parce que là, sa femme, très rapidement, ne s'est pas plu là-bas. Elle a été enceinte, et donc la famille de Loire, et puis la famille pasteurienne, qui avait encore une grosse influence sur lui, l'ont convaincu qu'il fallait rentrer. Et donc, il est rentré avec sa femme en France, et c'est là que l'Institut Pasteur n'a pas eu beaucoup de suite après son départ.
Alors, pour tout dire, ce n'est pas ce qu'on appelle un mariage d'amour, même s'il y avait certainement... Alors, on pouvait certainement tomber amoureux d'une femme présentée ainsi par la famille. Ce que je veux dire par là, c'est que son épouse lui était présentée par sa famille. C'est un mariage bourgeois, parfaitement arrangé, et on sent le poids terrible du clan Pasteur dans la vie d'Adrien Loire. À la fois, c'est une bénédiction, car ça lui offre des opportunités incroyables, et à la fois, c'est une forme de malédiction, car on sent que c'est un homme épris de liberté, en durant déterminé, mais qui ne peut pas s'émanciper de ce clan.
Oui, c'est cela, mais bon, il faut dire qu'à l'époque, les mariages de raison étaient quand même plutôt la règle. Alors, pendant la plupart des cas, ça se passait bien, mais bon, là, ça va se passer bien, mais pas pendant très longtemps, quoi. Mais en fait, c'était une femme qui avait beaucoup de qualités. Il a eu donc un premier enfant juste après être revenu d'Australie, et on verra plus tard qu'il en a eu encore deux autres.
Alors, retour d'Australie, ensuite, sa prochaine aventure, et voilà, votre livre est donc sous-titré « Vie aventureuse d'Adrien Loire, savant et globe-trotteur ». Globe-trotteur, ça ne se limite pas à Saint-Pétersbourg et à l'Australie, même si c'est déjà considérable à l'époque. La prochaine étape fondatrice, c'est Tunis. où il est envoyé en mission. Pouvez-vous nous exposer cette mission, les péripéties qui vont l'accompagner?
Oui, peu de temps après son retour d'Australie, il se trouve que, bon, il tourne un peu en rond à ce moment-là. Pasteur est très âgé, il ne peut plus travailler pour lui. Donc, l'Institut Pasteur a été créé entre-temps, mais il n'a pas vraiment sa place, donc il tourne un peu en rond. Et il se trouve que Duclos lui dit, on a un problème en Tunisie, les Tunisiens, donc c'était un protectorat relativement récent, ont des problèmes avec le vin, la vinification ne se passe pas bien, est-ce que tu ne pourrais pas aller les aider? Naturellement, Loire, il connaissait très bien les problèmes de fermentation, de vinification qu'il avait pu suivre à Arbois quand il allait voir le Pasteur. Loire est envoyé à Tunis, avec pour mission initiale d'essayer de régler les problèmes de vinification. Mais en même temps, Pasteur, donc, qui était encore de ce monde, lui dit ça serait bien que tu en profites aussi pour t'occuper un peu des problèmes de santé animale et humaine sur place. Donc, Loire va faire un premier, il va partir tout seul d'abord pendant 2 mois, et puis il va revenir en tentant de convaincre Pasteur et Duclos que ça serait bien que sa mission soit prolongée, qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas, etc. Et donc il va repartir cette fois-ci avec sa femme et son petit garçon à Tunis. Et là, ça va être une épopée de longue durée où il va apporter énormément aux Tunisiens, à la fois dans le domaine de la santé animale et de la santé humaine. Puisque jusqu'à présent, on a surtout parlé de la santé animale, parlons un peu de santé humaine. Il s'est beaucoup intéressé en particulier à la variole, qui faisait énormément de ravages en Tunisie comme dans le reste du monde. Le vaccin contre la variole avait déjà été inventé, c'était avant Pasteur, c'était Jenner, disons un siècle avant les travaux de Pasteur. Mais il y avait beaucoup d'hésitation à utiliser ce vaccin. Et Loire va jouer un rôle très important pour développer la vaccination contre la variole en Tunisie. Dans cette action, d'ailleurs, il va avoir l'occasion de former un jeune médecin tunisien. C'est avec musulman, en plus, ça a été le premier médecin musulman à avoir une thèse en Tunisie, sous la direction d'Adrien Loire. Adrien Loire va même tenter de rendre obligatoire la vaccination contre la variole en Tunisie. Mais il n'a pas pu y arriver parce qu'en France, elle n'était pas encore obligatoire. Et si on rendait une vaccination obligatoire, ça imposait qu'il y ait des sanctions pour les gens qui ne seraient pas vaccinés. Or, il n'était pas pensable que les Français en Tunisie puissent être soumis à des sanctions auxquelles ne seraient pas soumis les Français de France. Donc, il a échoué dans la vaccination obligatoire, mais il a néanmoins fait beaucoup dans ce domaine. Mais il a aussi fait beaucoup de choses dans le domaine des différentes maladies animales, dans la rage. Il a mis au point la fabrication du vaccin contre la rage en Tunisie et a donc pu vacciner les gens qui étaient mordus en Tunisie. On n'avait plus besoin de les envoyer en France, etc. Et il est devenu vraiment une personnalité extrêmement appréciée à Tunis et il était tellement bien reconnu qu'au moment de l'exposition internationale de 1900, eh bien, c'est Loire qui a été choisi comme commissaire pour le secteur de la Tunisie à l'exposition internationale. Et donc, il est revenu à Paris à ce moment-là, où il a passé presque un an pour s'occuper de la mise en place et de l'animation de ce pavillon Tunisie qui a eu un énorme succès.
Donc, le voilà installé, reconnu, à la tête d'un institut qu'il a réussi à développer, qui prend une importance croissante. On pourrait se dire que sa vie est toute tracée, mais la vie est parfois taquine et pleine de surprises, et un événement d'une autre nature va totalement perturber cette trajectoire sous la forme d'une jeune femme. Qui est-elle, cette jeune femme?
Oui, je dois, effectivement, je n'ai pas précisé. Effectivement, je n'ai pas précisé que pendant son séjour en Tunisie, il a été à l'origine de la création de l'Institut Pasteur de Tunis, et celui-là, il existe toujours. Alors, à l'époque, c'était un institut très modeste, mais après le départ de Loire, arrivé 2 ans plus tard, Charles Nicolle, qui va donner un très grand développement à cet institut. Et d'ailleurs, Charles Nicolle aura même un prix Nobel pour la découverte du rôle du pouls dans la transmission du typhus. Donc, c'est le troisième. Enfin, il avait déjà passé, Loire avait contribué, mais à la naissance, disons, de l'Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg. Il avait créé un Institut Pasteur en Australie, et voilà qu'il créait un troisième Institut Pasteur, et là, qui existe toujours à Tunis. Alors, bien, que s'est-il passé? C'est vrai que, disons, les relations avec sa femme sont un peu distendues. Ce qui se passait entre eux, bien entendu, on ne le sait pas. Il semble qu'il avait quelques aventures en dehors du mariage. Et puis, voilà que la famille entend parler de ses aventures et insiste pour que Adrien Loire se rapproche de sa femme. Alors, Adrien Loire, qui obéit toujours, obéit tellement bien qu'il y a un troisième enfant, il avait déjà eu 2 fils, une petite fille qui naît. Mais ça commence à faire beaucoup de travail pour sa femme, donc il faut recruter ce qu'on appelle une gouvernante. Et on recrute une gouvernante, qui s'appelle Hélène de Montès, qui était la descendante d'une famille de nobles espagnols très en vue. Sa famille avait été très en vue à Tunis, mais bon, son père était mort, elle vivait seule avec sa mère, et en fait, elle était dans une situation financière très difficile, donc c'est pour ça qu'elle a accepté d'être recrutée comme gouvernante. Mais cette jeune femme était, semble-t-il, très belle, et voilà que Adrien Loire en tombe amoureux, follement amoureux, et tellement bien amoureux qu'ils vont faire un enfant, mais ça ne va pas se savoir tout de suite. Et c'est une situation qui, en fait, Loire ne va la prendre qu'à être parti à Paris pour l'exposition universelle. Et après son départ, Hélène lui apprend qu'elle est enceinte. Alors ça, c'est une situation un peu délicate. Hélène va certainement quitter aussitôt le service de la femme de Loire, parce que bon, dès que ça se verrait qu'elle est enceinte, ça poserait des problèmes. Elle va sans doute rejoindre Adrien Loire à Paris. Et juste après la fermeture de l'exposition, au moment de la fermeture de l'exposition, au mois de novembre 1900, elle accouche d'un petit garçon. Bien, personne ne le sait, ils vivent cachés, semble-t-il, à Paris. On ne sait pas très bien comment ça s'est passé, parce qu'Adrien Loire était quelqu'un de très en vue, comment il s'est débrouillé pour pouvoir aller voir sa maîtresse à ce moment-là. Bref, il est quand même rentré, lui, à Tunis. Qu'a fait Hélène? Il semble qu'elle ait dû rester à Paris. Et puis, il s'est passé des choses étranges au mois de juin suivant. Donc, il est rentré à Tunis au mois de novembre 1900. Mais en juin 1901, en fin mai 1901, il a été la cible d'un attentat extrêmement bizarre fait par son assistant local. Il a reçu 5 coups de pistolet. Il n'en est pas mort, mais à l'occasion de cet attentat, dont on a déjà bien compris quels étaient les mobiles, il se trouve qu'il a dit à sa femme, ou sa femme a appris la liaison avec Hélène. Et là, elle n'a pas pu le supporter, et donc sa femme est partie aussitôt, pour retourner aussitôt à Paris, avec ses 3 enfants. Et en fait, Adrien Loire a aussitôt démissionné de son poste de directeur de l'Institut Pasteur de Tunis. Il est aussi retourné en France. Et manifestement, à partir de ce moment-là, la vie commune avec son épouse s'est terminée. Et il a dû vivre essentiellement avec sa maîtresse, mais sans que les choses se sachent. On faisait croire que le ménage tenait toujours, mais ce n'était pas le cas. Mais à partir de ce moment-là, bien entendu, tout le monde a été au courant, les pasteuriens, etc. Et les pasteuriens n'ont plus voulu entendre parler d'Adrien Loire, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. On pouvait avoir des maîtresses, mais il ne fallait surtout pas en parler. Mais là, quitter sa femme pour aller vivre avec sa maîtresse, c'était tout à fait inacceptable pour la morale de l'époque. Et l'Institut Pasteur était encore relativement jeune, et son, disons, sa, sa, sa notoriété, sa réputation aurait été entachée si elle continuait à avoir des relations avec quelqu'un qui avait une aussi mauvaise vie. Donc, si vous voulez, c'est là que s'est introduit la deuxième grande rupture entre Loire et la communauté pasteurienne. Au départ, le problème, c'était qu'on le regardait de haut. Peu à peu, on a commencé à comprendre que c'était quelqu'un de bien sur le plan scientifique, après ce qu'il avait fait en Australie et en Tunisie. Mais là, cette affaire personnelle a fait qu'il a été complètement renié. Et c'est une raison essentielle pour laquelle il est complètement tombé dans l'oubli, parce que les pasteuriens ont tout fait pour parler au minimum de lui. Alors que lui n'a cessé, tout le reste de sa carrière, dont on va peut-être dire quelques mots, à être d'une grande fidélité à la mémoire de Pasteur et en dire toujours le plus grand bien et être très fier de se présenter comme le neveu de Pasteur.
Oui, parlons rapidement de la suite de sa carrière, car nous devions dire en introduction, en réalité, il a introduit la science pasteurienne sur 5 continents, si je ne me trompe pas, ce qui n'est pas rien. Il y a encore l'Amérique du Sud dont il faut parler, et l'Afrique australe en particulier.
Oui, en fait, donc, quand il est rentré, là, il a une période un peu difficile, donc complètement coupé de la communauté pasteurienne. Il a fait quelques travaux, il s'est intéressé aux problèmes de désinfection à bord des navires, la lutte contre les rats dans les navires, etc. Et puis, il se trouve que s'est déclarée une épidémie de rage dans ce qu'on appelait à l'époque la Rhodésie du Sud, qui est devenue le Zimbabwe aujourd'hui, dans une ville qui s'appelait Bulawayo, enfin, qui s'appelle, elle existe toujours, bien entendu. Et on a fait, les Anglais, qui étaient donc les colonisateurs sur place, ont fait appel à l'Institut Pasteur pour essayer de régler ce problème de rage. Et l'Institut Pasteur en était bien embarrassé, parce que Loire était évidemment le candidat envoyé, on avait montré qu'il savait se débrouiller très bien quand on est à l'étranger, etc. Et puis il connaissait la rage, mais... Loire, on ne voulait plus en entendre parler. Enfin, on a trouvé une combine, on s'est arrangé pour que ce soit l'Institut Pasteur de Lille, qui était dirigé alors par Calmette, qui envoie Loire en Rhodésie du Sud. Et alors Loire est parti en Rhodésie du Sud, mais il n'est pas parti tout seul. Il est parti avec Hélène. Alors on le sait grâce à des documents, un seul document personnel écrit par Hélène, parce que ça n'apparaît nulle part dans les documents officiels. Il est parti avec Hélène en Rhodésie du Sud. Et Hélène, eh ben, elle était enceinte. Elle était enceinte de un peu plus de 8 mois. Donc partir avec elle dans ces conditions, pour un voyage qui durait presque 3 semaines, quelque chose comme ça, c'était quand même assez risqué. Ils sont partis tous les deux. En fait, Hélène a accouché 4 jours après leur arrivée à Bulawayo, après un grand voyage en bateau suivi d'un voyage en train du Cap à Bulawayo. Mais en dehors de ses aspects personnels, Adrien s'est très rapidement installé là. Il a mis au point la préparation du vaccin contre la rage, montré ce qu'il fallait faire avec les populations de chiens errants. Et puis, il a stoppé, disons, l'épidémie de rage localement. Mais il a fait des tas d'autres choses. Il n'est resté que 6 semaines localement, mais c'est incroyable tout ce qu'il a fait. Un exemple, il y avait un gros problème de termites. Comme beaucoup de ces pays-là. Dans le livre, il y a une photo où on voit une termite qui est apparue dans l'étude d'un avocat qui s'était absenté simplement pendant 4 ou 5 jours et les termites avaient mangé tous ces documents et on avait une énorme termite à côté de la cheminée de l'avocat. Donc il a montré qu'on pouvait arriver à tuer les termites en envoyant du gaz sulfureux dans les termitières. C'est un exemple, il s'est occupé aussi de problèmes d'avitaminose chez les ouvriers indigènes dans les mines, etc. Donc il a fait toute une série de choses en 6 semaines, c'est absolument stupéfiant. Les gens ont été extrêmement attristés de le voir partir, et bien entendu, pendant le temps où il était là, il a créé l'Institut Pasteur de Bulawayo. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui. D'ailleurs, il est probable que la non-survie de cet Institut Pasteur est encore due au fait que notre ami Robert Koch, toujours le rival de Pasteur, est arrivé à Bulawayo un mois après que Loire en soit parti. Et il est peu probable que Koch ait beaucoup poussé à la continuation de cet Institut Pasteur de Bulawayo. Et c'est voilà un quatrième Institut Pasteur qui a été créé par Adrien Loire. Alors, par la suite, oui. Il est revenu en France. Bon, Et il fait des missions d'abord en Amérique du Sud et puis ensuite au Canada.
Enfin, la dernière étape, et je trouve qu'elle est intéressante, elle peut paraître moins aventureuse parce qu'elle se situe au Havre, mais là encore, elle révèle tellement sa capacité d'entreprendre, de prendre des initiatives sans cesse les unes après les autres ou en même temps que les autres à agir sur tous les fronts qu'elle mérite peut-être d'être racontée aussi. C'est ça, quelque sorte la fin de sa carrière, mais elle est étonnante. Étonnante à quel point il est capable de faire feu de tout bois.
Oui, la fin de sa carrière, il n'avait que 46 ans à ce moment-là. Donc tout ce dont on vient parler, ça s'est passé, disons, entre l'âge de 20 ans quand il a été recruté par Pasteur jusqu'à l'âge de 46 ans. Il avait fait toutes ces missions où il a partout été vraiment très très apprécié. À chaque fois, son départ a été regretté, etc. Mais bon, il est revenu en France. En fait, Hélène n'a pas raconté tous les épisodes, il y en a eu de très étonnants, mais finalement Hélène a eu à ce moment-là un troisième enfant, une troisième fille, et elle ne voyait pas du tout d'un bon œil que Loire continue au Canada, où à ce moment-là il avait été nommé professeur à Montréal, ce qui n'est pas bien, rien. Il a été le premier professeur non canadien nommé dans cette faculté de médecine à Montréal. Donc Hélène ne voyait pas du tout d'un bon œil. Qu'il reste là-bas. Entre-temps, ils avaient pu se marier parce que sa femme avait accepté enfin le divorce. Donc, ils s'étaient mariés, ils avaient maintenant trois enfants Hélène souhaitait qu'il reste. Alors, il fallait qu'il se trouve un métier en France et il a pu obtenir un poste de directeur du bureau d'hygiène du Havre. Et c'est là qu'il est resté au Havre jusqu'à la fin de sa carrière. Il est mort en 41. Il a fait encore là-bas des choses tout à fait étonnantes. Il a été directeur d'un typateur d'hygiène, il a fait beaucoup de choses pour l'hygiène. Il est devenu directeur du Muséum d'histoire naturelle. Il a voulu créer un institut océanographique. Ce qui a effectivement été fait. Il a fait des choses concernant la pêche au Havre. Il y a eu toute la période de la guerre de 14-18 où il s'est dépensé pour aider les forces alliées. Il y a les Belges le gouvernement belge était installé à côté du Havre. Il a d'ailleurs reçu des décorations à la fois du gouvernement belge, du roi des Belges, et puis des décorations britanniques pour tout ce qu'il a fait pendant la guerre. Et puis après la guerre, il a fait plusieurs choses, mais quelque chose qui est assez amusant, c'est son histoire avec les chats. Il n'a cessé finalement pendant toutes les dernières dizaines d'années de sa vie de s'intéresser à la lutte contre les nuisibles, contre les rats en particulier, et il a essayé toute une série de techniques, dont ce fameux gaz sulfureux qui avait pu servir contre les termites à Bulawayo, mais qui aussi pouvait servir à éliminer les rats, mais rien de tout ça n'était vraiment efficace. Et puis il a découvert, c'est assez amusant, que finalement, à bord des navires, on avait des chats et que les chats, c'était un moyen efficace de se battre contre les rats. Et alors il a commencé à développer l'élevage des chats et des chats ratiers. Il a fait ce qu'il a appelé un haras de chats ratiers. Donc c'était des chats qui étaient, bon, probablement génétiquement assez bien adaptés, en plus qui étaient élevés de façon adéquate. Donc il avait ce haras des chats et il fournissait des chats aux personnes qui voulaient se débarrasser des rats, non seulement bien entendu sur le port, dans les navires, mais aussi par exemple le questeur, la questure d'éducation l'Assemblée nationale a fait appel à Loire et il y a une lettre très intéressante où on voit le questeur qui se félicite de l'efficacité des chats de Loire dans la lutte contre les rats. Donc, il a fait beaucoup de choses au Havre. Malheureusement, tout ça a été oublié parce que bon, le Havre a été complètement détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. En particulier, le Muséum d'histoire naturelle qu'il avait contribué à développer était complètement détruit. Donc, on a beaucoup oublié l'œuvre de Loire au Havre, ce qui est très dommage. Il y a malgré tout une petite rue, Adrien Loire au Havre. C'est en fait la seule rue en France, dans le monde, qui porte son nom. Alors, c'est quand même bien peu quand on voit tout ce qu'il a fait.
Et on a le sentiment qu'il a un peu joué de malchance dans sa course. Enfin, il n'était pas obsédé par sa postérité, mais une part de malchance dans la disparition de cette figure dans l'histoire scientifique. Comment l'expliquer finalement ?
Bien, je crois
c'est étonnant, c'est totalement étonnant.
Oui, y a les raisons que j'ai déjà évoquées, c'est-à-dire qu'au début, il n'était pas considéré parce qu'il n'avait pas de diplôme et que qu'on était le petit technicien. Ensuite, il y a eu cet épisode très important où il a abandonné sa femme pour sa maîtresse et finalement se remarier avec sa maîtresse, qui était inacceptable. Et puis, il y a eu un peu autre chose, c'est que ça apparaît tout à la fin de sa vie quand il a écrit un livre qui s'appelle « À l'ombre de Pasteur », qui est un livre très intéressant.
Quel titre ?
Oui, le titre.
Ça résume l'affaire.
Exactement. Mais dans quel sens il le disait, « À l'ombre de Pasteur », c'est à la fois les aspects très positifs et les aspects plus négatifs. C'est un témoignage extrêmement intéressant sur Pasteur à partir de 10... Enfin, disons, depuis en gros, surtout dans son laboratoire, à partir de 80 jusqu'à 95. Il a raconté un certain nombre de choses sur Pasteur, certaines que la famille n'aurait pas tellement voulu voir raconter. Et la famille, c'était en particulier le petit-fils de Pasteur, qui était Louis Pasteur-Valérie Radeau. C'était le dernier de la lignée Pasteur, puisque Louis Pasteur-Valérie Radeau n'a pas eu d'enfant. Et Louis Pasteur-Valérie Radeau a fait énormément de choses pour la mémoire de Pasteur, en rassemblant toutes les œuvres de Pasteur dans une série de volumes, en publiant la correspondance de Pasteur aussi dans une série de volumes. Et donc, Louis Pasteur-Valérie considérait que c'était lui qui était le dépositaire de la mémoire de Pasteur. Et il voyait d'un très mauvais œil ce petit neveu, qui était très mal vu, aller raconter de son côté qui était Pasteur. Et quand À l'ombre de Pasteur est paru, Louis Valérie Radeau, qui était à ce moment-là secrétaire du conseil d'administration de l'Institut Pasteur, a fait en sorte que ce livre ne soit pas accessible à l'Institut Pasteur. Il semble qu'il soit même arrivé à ce qu'il ne soit pas accessible dans les librairies de Paris. Je ne sais pas comment il a pu se débrouiller. Enfin, ce livre, finalement, n'a jamais été réédité. Mais pourtant, pratiquement tous les gens qui ont écrit sur Pasteur, et Dieu sait s'il y a eu des livres sur Pasteur, ont fait appel à ce document unique, parce qu'il en existe quand même un certain nombre de copies, et ont un peu pillé ce livre. Mais donc, une des raisons pour lesquelles Pasteur a été oublié, c'est que des gens comme Pasteur Valérie Radeau, qui a été ensuite président du conseil d'administration ainsi du Pasteur pendant de longues années, a tout fait pour qu'on n'en parle pas.
Il fallait l'effacer.
Exactement.
Comme une tâche. Allô ?
Oui, je suis là.
Ah, parfait. Écoutez, je crois que c'est le moment de dire que ce qui est formidable avec votre livre, c'est non seulement qu'il sort de l'oubli immérité Adrien Loire, le remet en pleine lumière et nous fait découvrir son apport, mais aussi, à travers sa vie, toute une époque. C'est-à-dire Adrien Loire est un témoin privilégié d'un monde à la fois très différent du nôtre et en même temps très proche. Je ne voudrais prendre qu'un exemple qui résonne de façon très particulière à nos oreilles aujourd'hui. Il faisait partie des gens qui militaient pour rassembler les connaissances vétérinaires et les connaissances de la médecine humaine, car il était persuadé que les maladies des animaux étaient potentiellement des maladies pour les êtres humains et que ces connaissances devaient donc être rassemblées. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cela pour nous éclairer sur le caractère souvent visionnaire d'Adrien Loire ?
Oui, juste un mot sur autre chose. On n'a pas du tout parlé d'un aspect, vous parlez de témoin de l'époque. En fait, il avait un côté ethnographe et dans tous les endroits qu'il a traversés, il a fait des descriptions très intéressantes des populations qu'il a vues, par exemple des aborigènes en Australie ou bien des différentes populations noires en Afrique du Sud, etc. Donc, c'est
ou des Indiens au Canada, oui, c'est vrai.
Et au Canada aussi, également. Alors oui, c'est très intéressant, mais il faut bien voir que finalement, c'est Pasteur qui était à l'origine de ça. Pasteur, il a commencé par travailler avec des maladies animales. Ça a été le choléra des poules, ça a été le charbon, ça a été le rouget du porc, et puis il s'est mis à la rage, qui est une maladie qui est aussi bien animale qu'humaine. Eh bien, Loire a été sur ces traces-là, et en fait, il a passé un doctorat en médecine, mais il a travaillé autant sur les maladies animales que sur les maladies humaines. Et il a écrit notamment un texte quand il était au Canada en disant que finalement, ben, grâce à Pasteur, on a commencé à considérer les vétérinaires et que lui trouve que les vétérinaires doivent être mis absolument sur le même plan que les médecins de médecine humaine. Et effectivement, c'est très intéressant parce que c'est un peu une politique qui est maintenant promue, en théorie du moins, par l'Organisation mondiale de la santé. On dit une santé, c'est-à-dire la santé à la fois des hommes, des animaux et de l'environnement. Donc de cette façon-là, il a quand même été un précurseur, parce qu'il faut bien dire que par la suite, après l'époque de Loire et des pasteuriens, il y a quand même eu beaucoup une séparation assez complète entre les médecins de médecine humaine et les médecins vétérinaires, et c'est très difficile de faire qu'ils se considèrent comme des égaux et qu'ils échangent leurs informations. Il y a eu plusieurs exemples où cette absence de communication était importante. Je citerai un exemple sur lequel j'ai écrit un livre sur comment les vaches sont devenues folles, où en fait on connaissait énormément de choses sur la maladie au prion, qui est donc le responsable de la maladie de la vache folle. On connaissait énormément de choses sur les animaux, et il a fallu beaucoup d'années pour qu'on comprenne que la maladie humaine, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'était en fait la même chose. S'il y avait eu meilleur contact, meilleurs échanges entre les vétérinaires et les médecins, et la médecine humaine, on aurait sans doute pu régler les problèmes de prion beaucoup plus tôt qu'on l'a fait.
Oui, on a le sentiment en lisant l'ouvrage que cet homme qui était, comme vous l'avez dit, un globe-trotteur, quelqu'un qui avait la passion de la transmission aussi, de l'enseignement, comme il était également, on dirait aujourd'hui, un outsider, quelqu'un qui s'est construit un petit peu en dehors des chemins balisés, il était une forme de passeur, c'est-à-dire passeur des connaissances, non seulement entre les continents, mais entre les différentes chapelles scientifiques, parce que n'appartenant réellement aucune dentelle ou étant tenu en marge de certaines, il était finalement le mieux placé pour créer des connexions entre des univers très différents. Est-ce que je m'égare?
Non, il est certain que son rôle, il a été sur cinq continents, si on considère les deux Amériques comme deux continents différents. Sur tous ces continents-là, il a apporté quand même la science pasteurienne, la voie pasteurienne. C'est très net. En Australie, c'est vraiment grâce à lui que cela a été introduit. Donc il a certainement été un passeur vers les continents. C'est vrai. Pour ce qui est du monde vétérinaire et du monde médical, il a aussi joué beaucoup dans ce sens. Donc vous avez tout à fait raison de ce côté-là.
Mais écoutez, je vous remercie car vous avez été à votre tour un passeur nous faisant découvrir sa vie aventureuse. Mais nous n'avons pas, je le dis très clairement à nos auditeurs, que l'ébaucher, car c'est vraiment une vie extrêmement riche et étonnante qui nous plonge dans un univers qui peut tout à fait servir de repère et de contrepoint à notre monde présent, car après tout, cet univers colonial dans lequel il était, c'est un petit peu aussi, c'est frappant, une première forme de mondialisation très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, mais avec des correspondances très, très fructueuses. C'est pourquoi j'invite nos auditeurs à se plonger dans cet ouvrage, dont je rappelle donc les références. Le titre est Le neveu de Pasteur ou la vie aventureuse d'Adrien Loire, savant et globe-trotteur. Et c'est donc par Annick Perrault et Maxime Schwartz aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, monsieur.
Merci, monsieur. Thank you.